Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre de l'été. Chaque semaine, on se penche sur la vie et l'œuvre d'un monstre sacré de la littérature aujourd'hui. Oh, je sens que rien que le nom va vous téléporter en enfance. Aujourd'hui donc, Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles, Le Général d'Ourakine. Nous ouvrons les livres de la Comtesse de Ségur.
Les petites filles modèles ne jouent plus à la poupée. Elles ne jouent plus à la marelle, à la corde à chat perchée.
J'ai invité pour en parler Marie-Joséphine Stricht, docteur S-Lettres et professeur de lettres, auteur notamment de La Comtesse de Ségur, un destin romanesque chez Via Romana. On la retrouve dans un instant, mais je vous annonce quand même la suite. Nous visiterons une bibliothèque, celle de Bruno Fuligny, historien et notamment spécialiste de la police et du crime. Sa bibliothèque est assez fascinante. Et puis, à la fin de cette émission, nous recevrons deux libraires de l'équipe pour de très bons conseils. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Bonjour Marie-Joséphine Stricht.
Bonjour Nicolas.
Dans l'émission, je demande toujours à l'écrivain que je reçois quel est le premier roman qu'il a lu, qu'il a marqué. Et une fois sur trois, mais vraiment, hein, c'est La Comtesse de Ségur. Et c'est mon cas aussi, et je pense que ce sera aussi le cas de ma fille. Ce sont des romans pourtant des années 1850-1860. Comment se fait-il qu'ils soient encore si présents aujourd'hui?
Écoutez, le génie n'a pas de date, de péremption, hein. Moi aussi, le premier roman que j'ai lu toute seule, c'était Les Malheurs de Sophie. Et je peux dire à rebours qu'elle m'a donné le goût de la littérature. J'ai eu vraiment un choc littéraire en lisant, toute petite, donc, ce premier roman.
Ah oui, mais je voulais y venir plus tard, mais vous avez consacré une partie de votre vie à la Comtesse de Ségur, en fait, puisque vous avez écrit beaucoup de livres.
Oui, j'ai quand même fait d'autres choses, mais c'est vrai qu'elle a mes faveurs.
Vous l'avez lu à quel âge?
Écoutez, je me souviens bien, j'avais 5 ans.
Ah oui.
J'ai lu Les Malheurs de Sophie toute seule et j'ai vraiment découvert la joie de la lecture et de la littérature finalement. Et si plus tard j'ai entrepris des études de littérature, je peux dire que c'est la Comtesse de Ségur et Sophie qui m'ont mis le pied à l'étrier.
Mais parce que je vous posais cette question, parce qu'il y a certains classiques qui fanent un peu, qui correspondent moins à l'époque. La Comtesse de Ségur, on a l'impression qu'elle traverse tout. Mais peut-être je me trompe, peut-être il y a eu des creux, peut-être que, je ne sais pas, moi, au début du XXe, ça s'est calmé, puis c'est revenu.
Oui, c'est vrai, elle a été un petit peu mise à l'index pour des raisons qui, vraiment, me semblent tout à fait faibles et à ne pas prolonger, cette mise à l'index. Mais son génie littéraire éclate et elle renaît de ses cendres, si je puis dire. Hein. Mmh. C'est vrai que vous avez tout à fait raison de dire qu'elle a subi une éclipse dans les années 60-70. D'accord. On lui a reproché des tas de choses, mais finalement, écoutez, non, elle a une vraie plume, un vrai style, c'est un génie.
Ben justement, j'allais y venir. Les années 60-70, c'est peut-être pas un hasard, parce qu'il y a quelque chose d'un peu désuet. Je parlais de modernité, mais il y a aussi quelque chose de désuet.
Oui, elle est désuète, mais elle plaît justement par ce côté. Et si la Comtesse de Ségur est désuète, alors on ne lirait même plus Molière ni Shakespeare, puisque eux aussi sont désuets par certains côtés.
Non, mais je parle de l'éducation, on va y revenir aussi,
oui.
Mais
bien
sûr. C'est
oui.
Pas franchement les valeurs des années 60-70, c'est celles d'aujourd'hui d'ailleurs.
Non,
mais,
c'est vrai.
Mais peut-être qu'à une époque, on était en guerre contre l'éducation un peu stricte, la Comtesse de Ségur, du coup,
oui,
ça faisait un peu tâche.
Oui, mais vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est vrai. Mais finalement, le lecteur même de 2021, le petit lecteur va transcender cela. Hein, il n'y a que les adultes pour faire grise mine.
Alors, on va faire connaissance avec l'auteur, parce qu'on connaît les romans, mais l'auteur peut-être un peu moins. Ségur, d'abord, c'est le nom de son mari.
Oui.
Son nom de jeune fille, c'est Sophie Rostopchine.
Bravo.
Où est-ce qu'elle est née? D'où vient-elle? Quel est le milieu, le contexte, etc.
Ah, écoutez, vous avez raison de souligner le côté romanesque de sa vie. Sophie Rostopchine naît le 19 juillet 1799 à Saint-Pétersbourg, en Russie donc. Elle est la troisième fille du comte Fiodor Rostopchine et de sa femme Catherine. Et Fiodor Rostopchine est, on peut le dire, est l'équivalent du premier ministre du tsar Paul Ier. Et ce sera le tsar Paul Ier qui sera le parrain de la petite Sophie.
Oui, c'est
donc c'est tout de suite vous situer le milieu dans lequel elle va être élevée.
Et il est intéressant son père parce que c'est un héros très ambigu. C'est lui qui est à l'origine de l'incendie de Moscou. Pour faire reculer Napoléon, il a mis le feu à la ville.
C'est cela. Donc cela vous explique aussi peut-être le caractère entier, violent parfois, de la jeune Sophie. Bien sûr, Fiodor Rostopchine a été le gouverneur de la ville de Moscou. Et au moment de l'arrivée des troupes napoléoniennes, en 1812, voyant qu'il ne pouvait pas empêcher l'arrivée de l'envahisseur français, eh bien, il va pratiquer la politique de la terre brûlée et il ne va pas hésiter à mettre le feu à la ville de Moscou en libérant les prisonniers de la ville, en leur confiant la mission de mettre le feu à chaque pâté de maison. Et ainsi, eh bien, l'empereur ne trouvera que des ruines. Et il faut rendre aussi justice à Fiodor Rostopchine qui, bien sûr, a mis le feu à la ville de Moscou, mais il est aussi allé au grand galop, mettre le feu dans sa belle propriété de Voronovo, pour qu'on ne puisse pas l'accuser d'avoir détruit les biens collectifs et non pas les siens.
Résultat, on est à la fois content de lui et en même temps, il rentre un peu en disgrâce parce qu'il a quand même mis le feu, quoi.
Oui, il rentre en disgrâce et le tsar, qui est alors le fils de Paul Ier, Alexandre, va désavouer le gouverneur de la ville de Moscou et il va finalement dire aux habitants de Moscou qui cherchaient réparation auprès de lui eh bien que lui, le tsar, n'est pas responsable et qu'il faut voir avec Fiodor Rostopchine. Fiodor Rostopchine est donc désavoué et il doit quitter la Russie. Mais Fiodor Rostopchine ne va pas partir en exil, il va prendre le prétexte aussi bien diplomatique qu'élégant d'aller prendre les eaux en Allemagne. Et c'est ainsi qu'il va quitter la Russie.
Et au fur et à mesure, il arrivera finalement en France.
Il va arriver en France, après avoir traversé l'Allemagne à cheval, avec son fidèle domestique Robert. Et arrivé en Allemagne, il prend effectivement les eaux, en particulier à Baden-Baden. Et là, il se rend compte qu'il est salué comme un sauveur. Grâce à ce geste digne de l'empereur Néron, eh bien, l'empereur Napoléon a connu la défaite. Et Fiodor Rostopchine se dit « Tiens, je vais peut-être même aller jusqu'en France pour voir à quoi ressemblent ces Français que j'ai tellement détestés. » Il arrive à Paris et là, bien sûr, il est reçu comme un sauveur et il est reçu par les Bourbons qui ont retrouvé le trône de France grâce à lui.
Voilà. Et donc Sophie va venir le rejoindre au bout d'un moment avec sa mère.
Et voilà, mais vous savez tout. Voilà. Oui, Fiodor était parti
seul. Et elle parle déjà français d'ailleurs.
Elle parle français, elle a été élevée en français. Elle parle l'italien. Le français, bien sûr, et l'allemand.
Une autre époque,
oui.
Mais alors, comment ça se passe pour elle en France ? C'est quoi sa jeunesse ? Elle a une mère
très sévère, qui est tourmentée de questions religieuses, de questions de théologie, et qui s'est elle-même convertie au catholicisme. Alors que, bon, c'était la religion russe, c'était la religion orthodoxe. La mère de Sophie est convertie au catholicisme. Au grand dame de son père, Fiodor, qui ignorait cette conversion. Et par un jeu qu'il serait peut-être un petit peu long d'expliquer dans le cadre de cette émission, eh bien, la jeune Sophie Rostopchine, elle aussi, a été convertie au catholicisme quand elle avait 11-12 ans, au pire moment de la guerre avec les Français. Vous voyez, ça c'est un grand point et qui explique pourquoi elle a pu, une fois arrivée à Paris, en 1817, elle avait donc 18 ans, elle a pu prétendre à un mariage catholique.
Avec Eugène de Ségur. Mais revenons sur son enfance, puisque en fait, la petite Sophie Rostopchine ressemble quand même beaucoup à la Sophie des malheurs de Sophie.
Oui,
c'est pour ça que
sûr.
Je parlais d'éducation stricte. Il y a quand même des.
Très strict.
C'est même du châtiment corporel et de l'humiliation.
Dur, oui, c'est très dur, c'est vrai.
Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un de mauvais, sa mère, ou parce qu'elle veut lui donner cette éducation ?
Non, elle a un côté un peu janséniste dans sa manière d'élever ses enfants. Alors, bien sûr, on dit les petites filles ne portaient que des robes de percale blanche en Russie, vous imaginez, mais il faut savoir que dans le domaine de Voronovo, il régnait une douce chaleur. Donc, c'était quand même pas aussi spartiate et cruel qu'on veut bien l'imaginer. Mais il est vrai que la comtesse Catherine Rostopchine est extrêmement sévère, dure, janséniste.
Et Sophie de Ségur, alors pas tout de suite, mais elle finira par écrire en français. On se penche sur les débuts de sa carrière littéraire dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
La Voix est libre continue, émission dédiée aujourd'hui à la comtesse de Ségur, les vacances, mémoire d'un âne, les Denigots. C'est fou ces titres qui résonnent pour tout le monde, Marie-Joséphine Stritch.
C'est magnifique. J'aime bien vous les entendre dire. La comtesse de Ségur, Sophie de Ségur, née Rostopchine, a su créer des types. Et si l'on dit Les petites filles modèles, immédiatement, on a une image en tête. On voit Camille et Madeleine. Un bon petit diable, on imagine aussi la mère MacMich, etc. Quand on dit le cadichon, on imagine cette âne très intelligente de Normandie. Elle a su créer des types. C'est pour cette raison que tous les titres évoquent quelque chose et parlent immédiatement. Je dirais bien que les romans de la comtesse de Ségur appartiennent au patrimoine culturel de tous les Français.
Mais c'est ça, en fait, la marque des mythes littéraires. C'est-à-dire que les personnages qu'on connaisse, qu'on ait lu ou pas le roman, on sait à peu près, on entend le nom, on le connaît. C'est comme Jean Valjean, on sait à peu près qui c'est, Cosette.
Exactement.
Aussi. Et c'est pareil pour la comtesse de Ségur.
C'est tout à fait cela.
Alors, il y en a peut-être quand même un qui est le plus célèbre que les autres, c'est Les Malheurs de Sophie.
Ma poupée va manger des poissons bien salés.
Mademoiselle Sophie!
Dites-moi que vous n'avez pas touché au poisson.
Notre Sophie est douée d'une grande imagination dès qu'il s'agit de faire des sottises.
Il est bizarre, Sophie, il est froid. Dis pas du tout ça!
Qu'est-ce que je vais faire d'une petite fille pareille, hein?
Oups!
Tu es pudie pour 3 jours dans ta chambre. Je ne veux plus te voir.
C'était la bande-annonce de l'adaptation par Christophe Honoré, c'était en 2016, des Malheurs de Sophie. Publié le roman, évidemment, en 1858. C'est son premier roman, mais avant, elle avait quand même publié un recueil de contes, je crois.
Oui, et même avant, en 1855, un ouvrage de pédiatrie intitulé « La santé des enfants ». Hein ? Il est intéressant de noter que cette même année 1855 voit l'apparition du terme « pédiatrie », c'est-à-dire « médecine pour les enfants ».
Mais elle s'intéressait à la science pédiatrique.
Oui, elle a perdu un enfant elle-même. Ah, son deuxième enfant va mourir à l'âge de 3 semaines. Elle perd quelques petits-enfants et elle estime que les médecins sont parfois des ânes et pas aussi intelligents que Cadichon. Donc, elle va donner des conseils de bon sens. Et elle explique qu'il ne faut pas langer les enfants de manière trop serrée, il ne faut pas mettre des chaussures trop pointues. Même faire porter des chaussures à bout carré. Enfin, elle donne des détails très précis.
Mais par son expérience ou parce qu'elle consulte des scientifiques ?
Elle a consulté et elle a tiré beaucoup d'enseignements de sa propre expérience.
Ah oui, c'est quelqu'un qui est dans son temps.
Qui est tout à fait dans son temps. Et elle vivrait actuellement, je suis sûre qu'elle aurait le téléphone dernier cri.
Ah oui.
Oui. Il faut savoir qu'à son époque, elle s'était acheté une paire de bottes en caoutchouc. Qui était une nouveauté. Ah. Elle aimait bien marcher dans l'herbe mouillée de Normandie. Et un soir, elle va les placer près de la cheminée. Et bien sûr, le lendemain, elle ne retrouve que 2 petits tas. Elle est très, très déçue. Et elle en parle à beaucoup de gens. Oui,
ça fait une expérience de plus. Pourquoi l'écrit-elle ? Elle a 59 ans à ce moment-là.
Elle a 59 ans. Et elle se met à écrire pour ses petites filles, qui sont modèles, bien sûr, mais ses vraies petites filles, Camille et Madeleine de Malaret, qui vont suivre leurs parents à Londres. Leur père est nommé secrétaire à l'ambassade de France à Londres, et elles sont désespérées de quitter Paris, la Normandie, car elles n'auront plus les récits de leur grand-mère. Et c'est ainsi que Sophie de Ségur va jeter sur un cahier les récits qu'elle leur faisait jusqu'alors. Et ce cahier va voyager, c'est ce que dit l'histoire, le cahier va voyager jusqu'à Londres et là, les parents le lisent, le confient à Louis Veuillot et de fil en aiguille, eh bien, le manuscrit va arriver sur la table de Hachette. Et là, je dois préciser qu'à ce moment-là, Louis Hachette a eu l'idée géniale de créer la Bibliothèque des Chemins de Fer. Ouais.
L'ancêtre de la Bibliothèque Rose, en fait.
Oui, c'est cela. Mais Louis Hachette a eu cette idée géniale de faire lire les gens qui prenait le train pour la première fois, qui pouvait s'affoler, s'inquiéter. Et donc, dans les gares, si vous avez encore de nos jours des relais Hachette, c'est un privilège qui date de cette époque. Et la Bibliothèque des Chemins de Fer avait plusieurs collections, chacune définie par une couleur. Et le rose était dévolu aux enfants.
C'est un succès immédiat ou ça met un peu de temps ?
Succès, hein. Oui, puisque Louis Hachette demande d'autres romans. Et il y aura une trilogie qui va se construire, les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles et Les Vacances.
Alors, j'ai appris que dans le manuscrit des Malheurs de Sophie, Sophie ne s'appelle pas Sophie, mais Marie.
Exact.
Et que Marie est raturée et qu'elle a choisi Sophie, qui est son prénom.
Oui.
Est-ce que ça veut dire quelque chose sur le côté mémoire, au fait, des Malheurs de Sophie ?
Je pense que ça veut dire beaucoup. Hein. Oui, ça signifie beaucoup. Effectivement, le manuscrit présente dans les premières pages la petite héroïne sous le prénom de Marie. Et puis, à la sixième page, si je mes souvenirs sont bons, un trait rageur barre Marie et écrit Sophie à la place. Là, on sent très bien que la comtesse de Ségur n'y tient plus. Elle se dit, c'est moi-même qui me mets en scène, je ne vais pas continuer à jouer la comédie, c'est moi. Et souvenez-vous aussi du chapitre Les fraises des bois. La petite Sophie s'en va avec sa mère, on est censé être en Normandie, et soudain, la plume doit un petit peu glisser vers la Russie. Elles doivent aller rendre visite à quelqu'un dans une ferme, la ferme de Zuitine, qui sonne quand même bien russe. Et pourtant, nous sommes en Normandie. Donc on le voit. La plume de Sophie, elle a bien envie de rester un peu en Russie, de parler d'elle-même.
C'est souvent comme ça pour les premiers romans d'ailleurs. Mais bon,
absolument.
C'est aussi un peu le cas dans les autres romans de la comtesse de Ségur. Justement, les malheurs de Sophie, c'est intéressant. On parlait de l'éducation stricte qu'elle retranscrit aussi dans les malheurs de Sophie. Mais c'est d'abord peut-être une petite fille qui se donne la liberté de faire des bêtises. C'est peut-être ça aussi ce qui plaît aux petites filles aujourd'hui.
Je crois que c'est cela, oui. Elle séduit, hein, la petite Sophie. On sait qu'elle va faire des bêtises. Dans l'extrait des Poissons Rouges, là, elle explique avec beaucoup de sagesse. Finalement, elle dit « Mais je ne pensais pas qu'ils puissent souffrir, ils n'ont pas crié. » Moi, enfant, j'étais pétrifiée par la justesse de cette remarque. Elle séduit, c'est une vraie petite fille entière, hein, qui n'hésite pas à confronter la réalité des tentations de la vie.
Elle en subit les conséquences aussi.
Elle en subit très courageusement les conséquences, oui.
Justement, quand il a été publié, est-ce que c'était déjà sous le nom La Comtesse de Ségur tout court, ou est-ce que c'était Sophie, Comtesse de Ségur,
Alors, c'était Comtesse de Ségur, et elle mettait toujours, à la fin de la petite dédicace, Née Rostopchine. C'est important, hein. Elle tenait quand même à ses origines russes. Comtesse de Ségur, Née Rostopchine. Ce qui est quand même important à l'époque. Maintenant, ça paraît tout à fait évident, mais je crois que c'est important. Il faut aussi rendre hommage à Eugène de Ségur.
Ah, c'est ce que j'allais vous demander.
Oui, il est de bon ton de taper sur lui, mais moi, je prends sa défense. C'était un bel homme, un séducteur.
Volage,
oui. Mais il a eu la grande générosité, la grande gentillesse d'autoriser sa femme à récupérer elle-même, toute seule, les sommes gagnées par ses manuscrits publiés. Maintenant, ça paraît tout à fait normal.
C'est ça. Mais moi, à l'époque, c'est pas rien.
Oui, à l'époque, ce n'est pas rien. Donc, je salue
Eugène. Il a eu la gentillesse aussi, si on peut dire, mais ce n'est pas le cas, de la laisser toute seule, en fait, parce qu'il partait sans arrêt, il n'était jamais avec elle.
Oui.
Et donc, il y a ça aussi, quoi. Elle a eu la solitude de l'écrivain.
Exactement. Oui, bravo. Voilà un élément de plus pour la sauvegarde d'Eugène.
Je ne sais pas s'il vivait comme ça, mais... Non, mais cela dit, ils ont un rapport assez particulier, puisque vous en parlez, c'est un couple un peu étrange, en fait.
Un mariage d'amour. Hein. Eugène de Ségur se marie donc en 1819 avec Sophie de Ségur. C'est un très beau mariage qui a lieu au Faubourg Saint-Germain. Le mariage est célébré dans la chapelle privée du cardinal de la Luzerne. Et quelques mois après, apparaît le petit Louis-Gaston de Ségur, qui est vraiment l'enfant de l'amour. Alors ensuite, peut-être qu'il y aura des dissensions. C'est difficile à dire, hein, de juger à rebours, avec notre œil contemporain, de leur relation. Mais c'est une femme intelligente. Elle a beaucoup de forces aimantes et elle va les reporter sur ses enfants et ses petits-enfants.
Quand même, on retombe, pour revenir à l'œuvre, on retrouve quand même souvent ces châtiments corporels, pas seulement dans les malheurs de Sophie.
Oui.
Est-ce que c'est une manière de les dénoncer ou est-ce qu'au contraire, c'est juste sa réalité à elle qu'elle retranscrit ?
Alors, les châtiments corporels sont nombreux.
Est-ce qu'il y a un geste politique ? Voilà.
Les châtiments corporels sont nombreux. Jacques Laurent avait l'habitude de dire qu'il y avait autant de fouets et de knouts et de cravaches dans les romans de la comtesse de Ségur que de cendriers chez un fumeur, certes. Mais je crois qu'elle a été élevée dans un monde très dur et âpre. Hein. Son père, n'oublions pas, en Russie, avait le droit de vie et de mort sur tous les serfs qui travaillaient pour lui.
Et oui,
c'est quand même une autre époque, une autre civilisation, c'est très dur. Elle a dû assister à des scènes pénibles. Mais quand elle met en scène des châtiments corporels, eh bien vous noterez que c'est toujours le fait des parents dépassés. Ce n'est pas l'apanage des bons parents. Madame de Fleurville, le rêve de la bonne mère, et Madame de Rosbourg ne frappent jamais. Hein. Ce sont toujours les parents dépassés. Et c'est une manière, comme pour reprendre votre expression, un geste politique pour les condamner.
Restez avec nous, Marie-Joséphine Stritch. On revient dans un instant.
La voix est libre. Nicolas Carreau.
Une Voix et Livre consacré à la comtesse de Ségur aujourd'hui avec Marie-Joséphine Stritch, docteur ès lettres, spécialiste de la comtesse de Ségur.
Ce matin-là, dans sa vieille maison sale et triste, Madame MacMiche tricotait, assise devant une fenêtre, en s'impatientant de plus en plus.
Où est-il encore allé traîner ce vaurien ? Il finira pendu à une corde si je n'arrive pas à le rendre plus obéissant.
Madame MacMiche venait à peine de grommeler cela lorsque la porte s'ouvrit.
D'où viens-tu, misérable ?
J'ai été retardée par Juliette. Elle s'ennuyait chez monsieur le juge de paix et elle m'a demandé de la ramener chez elle.
Viens, suis-moi. Je vais t'apprendre à te mettre en retard.
Voilà, c'était Chambre. Un extrait d'un bon petit diable, version livre audio, édition EPM jeunesse. Marie-Joséphine Stritch, je vous voyais sourire pendant toute la lecture.
Ah, c'est merveilleux.
Et vous m'avez dit tout à l'heure, dès que je parle de la comtesse de Ségur, je m'enflamme.
Ah oui, je m'enflamme.
Vous avez quand même une passion.
Oui, c'est très étrange.
C'est assez beau, en fait.
Ben oui, je suis entière, là, dans cette attirance.
Parce que vous êtes très peu à vous intéresser à l'œuvre de la comtesse de Ségur.
Oui.
C'est un peu comme Dumas. Est-ce que, alors de moins en moins pour Dumas, mais est-ce qu'il y a une forme de mépris universitaire ou c'est moi qui me fais des idées?
Oui, non, vous avez raison. C'est vrai que l'on sourit parfois au vu de mes publications. C'est un « on » très général et un peu professionnel, mais peu me chaud, hein, ça m'est égal. Il est vrai que la comtesse de Ségur est considérée comme un écrivain d'écriture enfantine. Et je préfère au terme « littérature enfantine », »,« littérature d'enfance », car rien n'est plus difficile que d'écrire pour des enfants.
Quelle est la différence ?
Ben, enfantine, il y a un côté puéril. Et la lecture de textes de littérature enfantine ne survivra pas au temps. Prenez un livre, je ne veux pas la massacrer, mais la malheureuse Zénaïde Fleuriot, qui a écrit à la même époque que la comtesse de Ségur. Quand on les reprend, ces livres, à l'âge adulte, on a quand même un peu de mal.
C'est la bête.
Oui, ça retombe vite, hein, c'est un peu artificiel. Mmh. Alors qu'avec la comtesse de Ségur, ça démarre tout de suite. Mmh.
C'est quoi d'ailleurs sa place dans la littérature jeunesse ou la littérature d'enfance, est-ce qu'elle marque une rupture ? C'est quoi sa position ?
Ah, elle a une place importante, hein, puisqu'elle a écrit donc, à partir de 1855, hein, grosso modo, à une époque où justement on découvre l'enfant. Et on découvre l'enfant, c'est ça qui est extraordinaire. L'impératrice Eugénie a ce petit garçon, le prince Lou, qu'on appelle Loulou familièrement. Et
avant, c'est un héritier ou de la main-d'œuvre.
Voilà. On découvre l'enfant, on va donc créer des livres spécifiquement pour les enfants, une littérature pour les enfants, des vêtements pour les enfants. Jusqu'alors, on les habillait un peu comme des adultes miniatures. On crée même une manufacture de jouets, les manufactures d'Épinal. Elle est dans ce mouvement de la découverte de l'enfant. C'est très important. Et elle a une place majeure, parce qu'elle surnage. 200 ans après, eh bien, elle est toujours là.
Justement, tout se décide et se cristallise dans l'enfance. C'est aussi ce qu'elle nous dit. Et est-ce que ça ne s'adresse pas aussi aux parents, à ceux qui lisent aux enfants ces histoires, en leur disant « Attention, tout se décide maintenant, faites gaffe à ce que
oui,
vous faites avec
vous
eux. »
Vous avez tout à fait raison. Vous parlez d'or. Ah oui, c'est tout à fait cela. Et vous avez raison de préciser que finalement, ces premières lectures se font aussi par le biais des parents. Le père, la mère peut commencer à lire un chapitre et ça va entraîner l'enfant à découvrir la suite. Ça marche très bien.
Mmh. Alors, elle a des problèmes de santé aussi à la fin de sa vie. Et puis,
oui.
Des périodes de mutisme aussi qui sont restées célèbres.
Oui, elle a eu donc 8 enfants en 15 ans. Une belle régularité.
C'est une belle moyenne, oui.
Oui, et son dernier enfant, Olga, va naître en 1835. Et de 13 ans plus tard, eh bien, elle va retrouver la voix de 1835 à 1837, elle n'a plus pu parler. Une sorte d'extinction de voix phénoménale.
On ne sait pas exactement ce qui s'est passé.
Alors bon, alors là, tout le monde...
Voilà, on spécule.
On spécule avec une joie extraordinaire, oui.
Mais elle écrivait sur une ardoise pour discuter.
Elle écrivait sur une ardoise, oui. On respectait beaucoup le silence des nouettes quand elle avait des terribles migraines également. Et vous êtes très bien documenté sur ces... Ouais, oui, bravo. Et elle va mourir, la malheureuse, le 9 février 1874, à l'ombre de la basilique Sainte-Clotilde, à Paris, 7e arrondissement. Et elle va mourir de problèmes cardiaques.
Alors, pas dans la misère, mais enfin, elle a quand même perdu.
Elle tire un peu le diable par la queue.
Financiers, hein.
Oui.
Les ventes se sont amenuisées, son mari est mort.
Oui.
Pourquoi ? Est-ce qu'on sait pourquoi le succès n'est plus tellement au rendez-vous ?
Non, elle aidait aussi énormément tous ses enfants et tous ses petits-enfants. Ah. Elle a une idée de la pauvreté, hein, qui est une. Elle vit pauvrement, dans une certaine humilité.
D'ailleurs, elle devient franciscaine à la fin de sa vie.
Dans le tiers ordre de. Bravo, oui,
c'est-à-dire
oui, oui.
qu'elle n'est pas franciscaine vraiment, mais c'est un ordre laïque de
c'est
gens
ça,
qui veulent vivre
ordre.
Comme Saint-François,
exactement.
C'est-à-dire
donc,
dans une forme de pauvreté.
Oui, et tout à fait cela, exactement.
Et alors, oui. sur, vous parliez de ses enfants, sur sa pierre tombale est inscrit « Dieu et mes enfants », c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Oui, oui.
Ce qui compte, c'est ses enfants et ses petits-enfants ?
Absolument. Les petits-enfants, ses enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle avait de grandes forces aimantes. Son mari a peut-être un peu pris des volages, certes, mais bon, elle a reporté tout cela sur ses enfants et petits-enfants. Sa tombe se trouve dans le village de Plunerette, non loin de Sainte-Anne-d'Auray, en Bretagne. Cette Bretagne qui est le point de départ du roman Jean qui rit et Jean qui grogne. Mmh. Et également des deux Nigauds qui veulent quitter leur Bretagne pour découvrir Paris.
Et ces petits-enfants, justement, ils se retrouvent tous à peu près dans les romans, en fait.
Oui, puisque à chaque naissance, elle en écrivait un et le dédiait au nouvel arrivé.
On connaît les héritiers de la comtesse de Ségur encore aujourd'hui
Ah oui, il y a toujours des... Il y a, bien sûr, des représentants de la famille Ségur. Louis-Gaston de Ségur est le dernier représentant du nom. Mmh. Et il vit à Paris.
C'était un peu en fil rouge de notre conversation, mais elle a quelque chose de très religieux, la comtesse de Ségur.
Oui.
Et ses romans, il y a aussi quand même une forme de, comment dire, il y a l'idée du bien et du mal en général qui revient souvent.
Oui, c'est
vrai. C'est aussi un ouvrage moral.
Oui, ce serait difficile de ne pas l'être dans des lectures pour des enfants, ce serait épouvantable. Non,
non, mais je veux dire, c'est elle qui définit quel est le bien, quel est le mal.
Ah oui, oui, oui. Je crois que c'est dans les Malheurs de Sophie, oui, le chemin rocailleux qui est le chemin du mal, du péché, et puis le chemin ponctué de jolies fleurs qui est le chemin du bien et de la bonne action. Et Sophie raisonne beaucoup sur le bien et le mal. Elle regrette toujours ses mauvaises actions.
Oui, il y a quelque chose de la culpabilité catholique aussi.
Oui. Oui, c'est vrai.
Merci beaucoup Marie-Joséphine Stritch. Pour en savoir plus, on peut lire votre Comtesse de Ségur, un destin romanesque. C'est chez Via Romana. J'ai choisi celui-là,
oui.
mais vous en avez écrit
c'est
plusieurs.
Très bien, oui. oui. Oui, oui, oui. Je peux aussi dire que si il y a des amateurs des maisons d'écrivains.
Ah oui, tiens.
Oui, elle habitait en Normandie. C'était un cadeau des Étrennes 1820. Son père lui avait offert cette propriété. Non loin de Paris, entre l'Aigle, à Aube exactement. Et là, la maison est maintenant un lieu pour enfants en difficulté, mais il existe le musée Ségur dans le petit village d'Aube. Et là, on réunit des tas de documents, c'est tout à fait intéressant.
Super, si vous êtes dans le coin cet été, n'hésitez pas, on peut visiter donc.
Oui.
Juste une dernière chose, c'est quoi votre préféré de la comtesse de Ségur ? Lequel vous conseillez ?
Oh, écoutez, je les conseille tous, mais Les Malheurs de Sophie, c'est vraiment, on frise le génie,
d'accord.
bien sûr. Et puis Cadichon, hein. Les Mémoires d'un âne. Sortez vos mouchoirs hein, dès le premier chapitre.
Merci beaucoup Marie-Joséphine Stritch. À bientôt.
Merci Nicolas.
Dans un instant, visite de bibliothèque.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
La Voix est libre continue et nous partons visiter une bibliothèque, celle de Bruno Fulini. Éloignez les enfants, on va parler crime.
Bonjour Bruno Fulini.
Bonjour Nicolas Caro.
Merci de nous recevoir chez vous. En fait, j'avais envie de vous voir et surtout voir votre bibliothèque parce que, pour tout dire aux auditeurs, je la connaissais déjà un peu. Vous êtes écrivain, historien, notamment spécialiste du crime. Et je sais que dans votre bibliothèque, et là je vois déjà quelques livres connus, vous avez quelques pépites, quelques trésors sur l'histoire du crime. Et alors vous n'êtes pas lecteur de polar particulièrement, mais vous avez tout le matériau qui sert aux écrivains de polar, c'est-à-dire les histoires vraies finalement du crime, et répertoriées dans tous vos livres. Et vous avez notamment beaucoup de pièces d'archives parce que vous êtes un grand fouilleur de bouquinistes.
Oui, on trouve parfois des trésors inattendus dans les boîtes des bouquinistes ou dans les brocantes ou partout où il y a des vieux livres, des vieux papiers. Alors, des imprimés, ça peut être des mémoires de policiers d'autrefois qui ne sont pas toujours faciles à trouver, qui fourmillent d'anecdotes, d'informations, d'histoires vraies qui parfois font plus frémir peut-être qu'un polar. Et puis, quelquefois, des documents de travail, documents historiques qui sont restés dans les familles et puis un jour, un héritier inconscient les a l'a mis sur le pavé comme ça, et ben voilà, ça se retrouve chez moi.
Et du coup, on a l'impression d'être un peu chez un bouquiniste, parce que chaque fois qu'on regarde la tranche d'un livre, on se dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça a l'air incroyable. »
Je ne vends rien, je garde tout, j'en ai besoin.
Oui, mais vous prêtez, je le sais, je vous en remercie.
Oui, oui.
Alors, par exemple, je vois un grand livre là, c'est indiqué « Registre et signalement ». Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, c'est un authentique registre qui vient d'un commissariat de police bourguignon dans les années 20, et ce sont tous les mandats d'amener, mandats de recherche, qui ont pu aboutir dans ce commissariat, non seulement de différents points de France, mais aussi de l'étranger. Donc on a d'une part des notes qui sont recopiées à la main, manuscrites, des portraits parlés, puisque avec Bertillon on avait appris à décomposer verbalement l'allure physique et le visage de quelqu'un, donc on a des signalements comme cela parlé.
C'est de la police scientifique,
finalement. Ah oui, oui, oui. Et puis on a aussi des avis de recherche qui ont été encollés à l'intérieur, y compris des avis de recherche américains. Il y a même celui, figurez-vous, de Jack Dalton. Je ne l'invente pas.
Wanted, Jack Dalton.
Là, on a un personnage tout à fait patibulaire, Wanted for Murder, un certain Emidio Lavella, donc qui est recherché à New York. En fait, c'est quelqu'un qui...
Alias Emidio l'assassino.
Un assassino, oui, c'est vraiment un tueur. Il vient des Abruzzes, c'est un des tueurs de la mafia new-yorkaise. Et eh bien, à tout hasard, puisqu'on le recherche, on se demande s'il ne serait pas du côté de Chalon-sur-Saône pour goûter des omelettes. Donc on a cet avis de recherche qui est assez extraordinaire.
Et là, avec son canotier, la photo est magnifique.
Oui, on dirait vraiment un accessoire de film, mais c'est un document authentique, un document américain, encollé dans un registre de signalement, on ne peut plus français. Mais la page d'à côté, il s'agit d'un voleur de poules, oui, ou d'un voleur de bicyclette. On a vraiment tout. Et puis, comme on est dans les années 20, il y a des formes de délinquance qui ont disparu aujourd'hui. Par exemple, on signale deux frères qui vont sonner. Évidemment, il y a plein de familles d'anciens combattants ou de parents qui ont perdu leurs enfants dans la Grande Guerre, et alors qu'ils font des collectes pour des monuments aux morts tout à fait imaginaires.
Ah,
c'est une forme d'escroquerie, voilà, qui est signalée aux policiers de l'époque.
Comme dans le livre de Pierre Lemaître, Au revoir là-haut.
Exactement. Exactement.
Voilà, c'est une délinquance. Ivan Pollard, qui s'est servi d'un matériau réel qu'on trouve chez vous. Vous avez évoqué Bertillon, qui est donc celui qui a inventé une méthode à l'époque pour décrire les criminels et puis ensuite en faire des fichiers, pouvoir les retrouver, pouvoir les comparer, etc. C'est un peu l'ancêtre de la police scientifique, il est français. Et vous avez justement là un vieux livre, qu'est-ce que c'est que ça, un carnet ?
Oui, en fait, c'est toute une collection de cours, puisque les policiers étaient formés à la méthode Bertillon. Bertillon n'était pas policier, c'était un petit employé grisâtre de la préfecture de police, mais qui a eu un éclair de génie au début des années 1880. Il s'est dit qu'en relevant les mesures physiques des criminels qu'on arrêtait, et en calculant des rapports entre ces différentes mesures, on arrivait à des fiches qui faisaient que même si le criminel changeait d'identité, on pourrait l'identifier. C'est ce qui a permis d'identifier les récidivistes de manière scientifique. Donc c'est vraiment les débuts de la police scientifique. Et c'est à l'époque Paris et la préfecture de police qui sont vraiment pionniers dans ce domaine. Et donc Bertillon va obtenir la création de ce qui va devenir l'identité judiciaire. Et simplement, il faut former les policiers parisiens, mais aussi les policiers de province et puis les policiers étrangers. Ça devient une célébrité mondiale. Aujourd'hui encore, sur les documents de la police américaine, vous avez une rubrique mesure Bertillon, où vous avez les mesures des bras, avant-bras, etc. Parce que ça reste encore une méthode qui est complètement distincte des empreintes digitales, mais qui permet effectivement d'identifier les bandits. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est
résumé cours anthropométrie, votre petit carnet.
Voilà, c'est un carnet bien tenu. Ah, on voit que c'était un fonctionnaire sérieux qui a souligné les mots importants. Il y a les pleins et les déliés. Et donc, on a les différentes formes de nez, les différentes formes d'oreilles, avec des petits croquis. Parfois, il a découpé aussi les documents du maître pour les coller à l'intérieur de son carnet. Donc, ce sont des documents assez fabuleux parce qu'on peut soi-même, du coup, 100 ans plus tard, se former à l'anthropométrie.
Où est-ce que vous trouvez ça ?
Mais partout. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que, je ne dis pas tous les jours, mais de temps en temps, dans un fatras de bouquins à 3 euros, vous avez ce genre de choses. Vous remarquerez qu'extérieurement, ça ne paye pas de mine.
Non, oui,
on n'est pas dans la haute bibliophilie. Non, non. C'est un petit carnet toilé. Ça pourrait aussi bien être un carnet de recettes de cuisine d'une grand-mère d'autrefois. Non, c'est un vieux commissaire de police qui a pieusement conservé ses cours de formation, et on y trouve des éléments évidemment très très précieux pour comprendre la police et le crime au XIXe siècle.
Et je sais, pour l'avoir déjà vu chez vous, que vous détenez le carnet d'un gendarme, mais un gendarme un peu particulier. Est-ce que vous pouvez retrouver ce carnet et me raconter cette histoire fascinante?
Alors, le voici au perché. C'est un carnet assez, assez laid à la base, mais que j'aurais acheté de toute façon, puisque c'est le carnet d'un gardien de la paix, un gardien de la paix à Paris. Et c'est un carnet de ronde. Donc, tout bon gardien de la paix, consciencieusement, remplit son carnet en indiquant chaque jour ce qu'il a vu de notable, les gens qu'il a arrêtés, les verbalisations, les incidents divers. Voilà. Et donc, bon, c'est très classique, hein, comme document. Simplement, ça n'est pas le carnet de n'importe quel gardien de la paix, c'est le carnet de Victor Prévost, qui était responsable du poste de l'Évangile. Donc,
c'est indiqué sur la page de garde.
Tout à fait, comme il l'a indiqué de sa propre écriture. Et donc, ce poste de l'Évangile, on est du côté de la porte de la chapelle.
Petit détail.
Il y a eu un crime ou une série de crimes tout à fait effroyables dans ce quartier-là. Et alors, si on regarde attentivement ce carnet, on voit par exemple en février 1876 qu'il y a un incident avec un marchand de vin qui ouvre trop tard le 22 février.
Oui, c'est le gendarme qui l'écrit donc dans son carnet.
Le gardien de la paix.
Le gardien de la paix, c'est un policier.
Oui, effectivement, il y a eu un incident le 22 février avec un marchand de vin, quelque chose de tout à fait classique, sans importance. Il a cru voir le 28 février une réunion politique secrète. On est attentif à ça, hein, au début de la Troisième République. Mais ce qui est surtout troublant, c'est que ce gardien de la paix qui remplit normalement chaque jour son carnet, eh bien, n'a rien vu de notable du 22 au 28 février. Et ça, c'est quand même curieux. On imagine mal qu'il soit parti en vacances à ce moment-là. On découvrira 3 ans plus tard, parce qu'il se fait prendre en train d'essayer de se débarrasser d'un morceau de corps humain, et bien qu'en fait, ce gardien de la paix est un gardien de la paix assassin, un tueur en série, qui plus est un dépeceur, et bien figurez-vous que entre le 22 et le 28 février 1876, il a assassiné, découpé et éliminé morceau par morceau, tout simplement, sa petite amie, sa chérie, Adèle Blondin. Elle avait fait un héritage, elle voulait ouvrir un magasin, elle avait du coup mis l'argent dans son armoire à linge. C'était trop tentant pour Victor Prévost, qui était beaucoup trop occupé pour faire sa ronde ces jours-là.
Pour écrire son compte-rendu de ronde. Et vous êtes tombé sur son carnet un peu par hasard, en fait.
Totalement par hasard, parce que c'était dans un catalogue de livres anciens, c'était vendu pour une somme tout à fait modique, comme un carnet de ronde de gardien de la paix. Mais ce nom de Victor Prévost me disait quelque chose. Je savais que j'avais déjà lu ce nom-là, donc je me suis précipité sur mes vieux bouquins, et c'est dans les souvenirs de police du commissaire Reynaud que j'avais lu un très long chapitre sur cette triste affaire de Victor Prévost, le gardien de la paix assassin. C'est tout de même un gardien de la paix qui va finir sous la guillotine, ce qui n'est pas banal. Il est guillotiné en 1880. Ernest Reynaud affirme qu'avant de passer sur la planche et de se faire couper la tête, il aurait lancé « Je demande pardon à l'administration ». C'est un peu trop beau pour être vrai, mais l'anecdote est quand même sympathique.
C'est assez fascinant et troublant, en fait, d'avoir son carnet de ronde, parce que c'est quand même un tueur vraiment particulièrement cruel et fou. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une tentation du fétichisme avec ces objets criminels, quoi?
Bon, alors je ne collectionne pas les armes du crime, hein. C'est vraiment les documents qui m'intéressent. C'est vrai que ce carnet est assez terrifiant parce que le cartonnage est un petit peu brisé. On sent qu'il l'a porté sur lui. C'est un objet qui a vécu, comme on dit. Il y a des taches, mais ce sont des taches d'encre. Visiblement, il tenait son carnet loin de sa table à découper, tant mieux. Ce qui est certain, c'est que sur tous ces crimes, sur toutes ces affaires, on raconte énormément de choses. Vous avez beaucoup de livres qui reprennent simplement ce qui a été publié dans la presse à l'époque ou ce qui a été dit au moment du procès. C'est vrai que j'aime bien, quand c'est possible, aller vraiment aux sources. Soit dans les archives, il y a de très belles archives du ministère de l'Intérieur, de la préfecture de police, dans lesquelles on retrouve parfois des documents vraiment intimement liés à l'enquête. Et puis, parfois, c'est tout simplement, je dirais, dans la rue, dans une boîte de bouquiniste, sur une brocante, que je trouve d'autres sources. Et là, ça devient évidemment très émoustillant.
Il faut vraiment qu'on parte, Bruno Fulini, parce que là, je vois encore plein d'autres livres et plein de tranches. J'ai envie de vous demander toutes ces histoires, mais on n'a pas le temps. Et donc, vaut mieux qu'on s'arrête là. Là, je vois l'histoire des gardiens de la paix, par exemple. Il doit y avoir des trucs fabuleux là-dedans. Mais voilà, merci beaucoup Bruno Fulini de nous avoir reçus et de nous avoir donné le matériau de base à tous les écrivains de polar. Merci beaucoup Bruno.
Merci à vous.
Europe 1.
Retour dans les studios d'Europe 1 dans un instant, les libraires.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, La Voix est libre de l'été et donc de libraires au lieu d'un. Avec moi cette semaine dans les studios d'Europe 1, Thibaut Raden de la librairie L'Écriture à Vaucresson. Bonjour Thibaut.
Bonjour Nicolas.
Et Marie-Ève Charbonnier de Saint-Mandé, librairie Parole. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Nicolas.
Bon, on commence par vous, tiens Marie-Ève. De quoi nous parlez-vous ?
Alors moi j'avais envie de vous parler des Mains du miracle de Joseph Kessel. Ah. Parce que quand vous m'avez demandé de choisir un livre chouchou des vacances, je me suis rappelé de mes vacances à moi quand j'étais jeune et que je partais avec mes parents. Et je me suis dit quel livre on peut choisir qui pourrait être piqué par tout le monde. Et celui-ci, je trouve, il peut l'être particulièrement. Donc là, on parle d'un grand classique de la littérature quand même, Joseph Kessel, Les Mains du miracle. Un livre qui a été réédité il y a quelques années, qu'on ne trouvait plus avant et qui a un regain d'intérêt de la part de tout le monde. On est pendant la Seconde Guerre mondiale et on va suivre le docteur Kersten qui a un don en fait. Il a un don de massage absolument incroyable. Il a suivi des cours avec un médecin chinois. Il arrive à faire passer, à guérir tout le monde. Et Himmler, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, Himmler souffrait énormément de migraines. Il avait tout essayé. Voilà, il avait essayé les médecins, les gourous, etc. Rien ne marchait. Il avait mal. Il entend parler de ce médecin miraculeux. Il le fait venir. Et le docteur Kersten arrive à le soigner. Et alors là, avec ça, à partir de ça, il arrive à faire passer des tas de messages et notamment, il arrive à sauver des milliers de gens. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on voit à quel point un héros peut être ordinaire. Parce que ce docteur Kersten, au début, la Seconde Guerre mondiale, le massacre des Juifs, finalement, il passe un petit peu à côté. Il met du temps à se rendre compte de ce qui se passe. Et il devient un héros un peu malgré lui. Et ça, c'est extrêmement bien raconté dans le livre. C'est un récit romancé, mais c'est vraiment une histoire vraie. Et je trouve qu'en ce moment, ça fait du bien de se rappeler qu'il y a des héros qui arrivent à lutter dans la vie de tous les jours.
Et comment ça se fait qu'il revient en force ? Effectivement, vous n'êtes pas la première libraire à m'en parler. Pourquoi Les Mains du miracle de Kessel ? Il y en a plein d'autres de Kessel. Alors, ils l'ont republié en Pléiade assez récemment. Est-ce que c'est pour ça ? Est-ce qu'on a une idée ? Est-ce que c'est pareil chez vous, Thibaut ?
Oui, alors pour le coup, c'est pareil chez nous, mais ça n'a rien à voir avec la Pléiade. Je pense juste que les gens se rendent compte de qui était Kessel et qu'est-ce que c'est que ce bouquin.
Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours ce style de Kessel qui est très pur, on voit aussi le côté journalistique, il est très factuel, c'est très bien, tout est vrai. Il a enquêté, ça a été
Puis c'est un bouquin qui a été lu par plein de gens il y a un certain temps. Enfin, moi, le nombre de clients qui viennent et qui m'en parlent, parce que moi j'ai toujours pas lu, je suis mauvais élève.
Ah mais il faut, hein.
Ils me disent, mais lisez-le, vous verrez, c'est incroyable. Je vous crois, je n'ai pas le temps, mais
vous
crois.
Si c'est pas japonais ou bulgare, de toute façon.
C'est même pas vrai.
Et ce qui est très chouette, c'est que vraiment, il peut être lu par tout le monde. C'est-à-dire que ça se met dans les mains des ados à partir de 12, 13, 14 ans, sans aucun problème. On peut piquer ça dans la valise de ses parents. Et voilà, grand, grand plaisir des vacances.
Mais tant mieux qu'on n'ait pas la réponse exacte au retour des Mains du miracle de Kessel.
Le bouche à oreille,
il y a de la magie là-dedans, j'aime bien ça, moi. Thibaut Raden, vous ?
Eh bien, moi, c'est ni un japonais, ni un bulgare.
Aha.
Il s'appelle Herman Melville. Et je vais vous parler de Moby Dick, du coup.
Ah oui.
Moby Dick. C'est un peu un choix politique, je crois. Par rapport à Kessel, c'est un peu un choix politique.
Ah
parce
oui
qu'en fait, non, c'est pas vrai, hein, c'est une blague. Mais c'est juste que, pareil, on va reprendre Kessel, mais Kessel revient sur le devant de la scène et tout ça. Et moi, je trouve que Melville, il est un peu trop derrière, alors que quand même, quand on lit. Bah, alors, ma librairie. Hein,
il y a des t-shirts Bartleby maintenant.
Super,
il préfère
un
notre
t-shirt. Mais je m'en fiche du t-shirt. Bah non,
mais
moi,
ça veut dire qu'il est quand même populaire. Quoi.
Oui, mais bon. Quand je parle de Moby Dick, beaucoup disent « je l'ai lu il y a longtemps » ou « non, je ne l'ai pas lu, il est trop gros ». C'est cet argument qui ne tient pas, à mon sens. Il n'est pas assez gros. C'est 1000 pages et on en veut 1000 autres. Je suis désolé, mais quand vous lisez ne serait-ce que la première page de Moby Dick, ça a tout balayé. Quoi. Moby Dick, pour remettre un petit peu le contexte d'histoire, c'est l'histoire de Ismaël, qui est un type qui s'engage en fait au bord d'un baleinier pour aller à chasse à la baleine. C'est hyper simple dès le départ. C'est tiré d'une histoire vraie d'un bateau, l'Essex, je crois, qui s'est fait qui s'est fait un petit peu attaquer par un gros poisson qu'on appelle un cachalot. Et donc là, du coup, nous
Qu'il y avait des attaques de cachalots à l'époque contre les baleiniers.
Et il y en a la plus récente, elle date de 70 ans, je crois. C'est pas, il y en a encore. Hein. Et en fait, du coup, vous suivez en fait son aventure de baleinier. Donc, alors je sais plus qui a dit ça.
un gars un peu connu, et il a absolument raison. Si vous voulez apprendre à chasser le cachalot, la baleine, vous lisez Moby Dick, vous saurez le faire. Mais même aller à l'intérieur de la bestiole morte pour récupérer l'huile et tout ça, enfin, c'est d'une précision dans l'écriture et dans tous les actes qui frise la perfection à mon sens. Bon, moi, je me souviens d'avoir lu ce livre il y a quelques années en vacances. J'étais à la montagne, je n'ai absolument pas profité de la montagne. J'étais en pleine mer à essayer de chasser des cachalots alors qu'ils ne m'avaient absolument rien fait.
C'est ça, Thibaut Raden, qui vient de se résumer à lui tout seul. On lit Moby Dick à la montagne.
Il faut bien pouvoir voyager un petit peu, non ? Ah non, non, mais vraiment, pour le coup, Moby Dick, c'est un classique qui, par exemple, quand j'en parle avec les gens, on ne l'a pas assez lu. Alors on l'a lu là, il y a longtemps et on ne s'en souvient plus. Et c'est extraordinaire, c'est un livre d'aventure, c'est un livre vrai, c'est un livre qui vous parle de la nature humaine, parce que j'ai pas parlé du capitaine Lacap, ouais,
qui est quand même obsédé par la baleine.
Exactement, et par ce monstre. Qui est le monstre ? Ça rejoint plein de grands romans de la littérature. Qui est ce monstre ? Et nous, en tant que lecteurs qui apprécions finalement lire cette chasse à la baleine, est-ce que ces baleiniers sont des monstres ? Est-ce que la baleine l'est aussi ? Enfin, il y a tout un tas de questions qui vous trottent en tête et qui font de cette aventure quelque chose d'assez extraordinaire. Enfin, je n'ai jamais lu un livre qui m'a autant pris dans... Je sens le vent, il y a ce souffle qu'on appelle un peu épique et tout ça. Moby Dick, c'est ça, et c'est une définition de la littérature que j'aime particulièrement.
Et la définition de l'ambiguïté des personnages, y compris la baleine, c'est-à-dire que personne n'est tout blanc, personne n'est tout bleu.
Et tout est terrible.
Voilà.
Mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire
c'est
que,
une fresque.
Ouais, on en souffre, mais avec bonheur.
Moby Dick d'Herman Melville a retrouvé à la librairie L'Écriture, j'imagine,
exactement,
à Vaucresson. Et puis donc Marie-Ève Charbonnier, on a dit Les Mains du Miracle de Kessel, que vous avez une petite pile comme ça à la librairie, vous dites,
ouais,
n'oubliez pas
exactement
votre Kessel. Merci beaucoup Marie-Ève Charbonnier, merci Thibaut Raden. C'était la dernière page de cette émission. Merci aussi à Agnès Vaudin pour la préparation et puis à Boris Pachinski, bien sûr. L'homme aux doigts de fée, à la semaine prochaine, rendez-vous avec La Fontaine, les fables. Ça va être bien, on va peut-être voir des baleines aussi.
Peut-être.
À bientôt, salut.